débat du jour.
François Bernard.
Bonsoir et bienvenue à l'écoute du débat sur RFI. Le Sénat discute cette semaine l'opportunité d'autoriser l'usage et la vente contrôlée du cannabis. Cette herbe largement consommée en France est pour l'heure interdite. Cette prohibition a favorisé le développement d'un marché clandestin très lucratif. La politique répressive se révèle inefficace. Alors l'État doit-il prendre en main le commerce du cannabis pour empêcher les dérives au risque de favoriser la consommation de cette drogue dite douce mais néanmoins considérée comme dangereuse, particulièrement pour les jeunes gens. Alors faut-il légaliser le cannabis? On en parle avec nos deux invités. Ce soir, je vous les présente. Esther Benbassa est sénatrice Europe Écologie Les Verts. Elle défend une proposition de loi destinée justement à encadrer l'usage et la vente du cannabis. Bonsoir Esther Benbassa.
Bonsoir.
Et puis Nicolas Bonnet est lui pharmacien, spécialisé en santé publique, addictologue, directeur du réseau des établissements de santé pour la prévention des addictions. Ça s'appelle le RESPAD. Bonsoir à vous Nicolas Bonnet.
Bonsoir.
Alors, quelle est donc cette proposition qui va être discutée au Sénat mercredi, dont vous êtes l'initiatrice, Esther Benbassa?
C'est une loi qui a été déposée il y a exactement un an et nous allons la discuter maintenant. Elle concerne la dépénalisation du cannabis et la légalisation contrôlée et sa légalisation contrôlée, à savoir que, comme vous savez, aujourd'hui la pénalisation du cannabis coûte énormément aux contributeurs et les résultats ne sont pas patents puisque vous savez que nous avons le système le plus répressif en Europe et nous avons le plus grand nombre de consommateurs et on constate également une croissance de ce nombre de consommateurs. Oui. Et sa légalisation contrôlée, cela ne veut pas dire que chacun pourra aller s'acheter un joint. Ce sera contrôlé, ce pourrait être sous forme de licence de vente, mais je demande aussi dans ce texte de contrôler la production, ce qui est très important, en laissant également une part pour ceux qui font pousser du cannabis pour eux-mêmes, en passant par des cannabis clubs, etc. Et aussi voir comment, enfin moi je ne peux pas décider sur ça, ça peut être un monopole d'État, ça peut être une vente concurrentielle, mais il faut que tout cela soit contrôlé comme il est actuellement d'usage dans le Colorado depuis un an et je crois qu'on n'a pas assez de distanciation, mais les premiers chiffres montrent que l'augmentation n'est pas énorme. Mmh. Et qu'il y a une régulation et à cela s'ajoutent des créations d'emplois et une prévention parce que les bénéfices fiscaux de la vente du cannabis seront versés à la modernisation des écoles et à la prévention. Je trouve que c'est une très bonne chose. Nous sommes dans un pays où il y a un tabou sur le cannabis et on ne veut pas en parler, à savoir on laisse faire et à mon avis c'est ça le laxisme.
Alors, on va en parler ce soir longuement, on a pratiquement 20 minutes pour le faire. Donc dépénalisation de la consommation, légalisation de la vente, est-ce que cette proposition a votre assentiment Nicolas Bonnet?
Ce qui est certain c'est que ce qui est certain, en tout cas, c'est que l'interdit légal et la pénalisation de l'usage de cannabis, qui est effectivement en France actuellement en place, ne suffisent pas à ralentir, en tout cas, la disponibilité du produit. Et au contraire, on a aujourd'hui en France un produit qui est beaucoup moins cher qu'auparavant, bien plus accessible et souvent aussi bien plus dosé en principe actif que dans de nombreux autres pays européens. Donc, du coup, ça nous pousse effectivement à repenser la question des drogues, non plus en termes de loi, mais pour le coup en termes de politique, de politique global sur les drogues en général. Et ce que vous avez rappelé à l'instant, les constats sociaux, sanitaires, épidémiologiques actuels, l'échec de la guerre à la drogue aussi, l'échec de la prohibition qui a engendré tous les maux qu'elle a prétendu combattre, notamment avec l'émergence des réseaux mafieux et autres nous poussent aussi à conclure que l'interdiction du cannabis n'est pas justifiable, ou en tout cas n'est pas applicable en tant que telle et n'est pas efficace dans sa forme actuelle, et nous doit nous inviter à une réforme de la politique des drogues dans une logique finalement de prévention et de promotion de la santé, avec des modèles de régulation qui ont été rappelés, qui sont divers et variés, qui aujourd'hui commencent à faire leurs preuves dans de nombreux pays d'Amérique, des Amériques, d'Amérique du Nord, mais aussi d'Amérique latine. Et cette définition après d'objectifs, elle doit également être concluante et se faire finalement entre les différents acteurs aujourd'hui concernés, que ce soit le répressif, le sanitaire, l'éducatif également, je pense vraiment à véritablement tous les acteurs qui sont en contact avec les consommateurs. Et ces objectifs doivent être prioritairement la réduction des problèmes de santé, la réduction de la criminalité, la réduction des réseaux mafieux.
Ça veut dire que globalement vous êtes d'accord pour la légalisation de la vente et de la production, comme le faisait noter tout à l'heure
Esther Benbassa. De la diffusion aussi, de tout le processus.
On a besoin aujourd'hui en France plus que jamais d'une réforme globale de la politique des drogues. L'usage de cannabis en fait partie, mais je pense que l'usage de l'ensemble des drogues aussi aujourd'hui devrait être réformé en France.
Mais en tout cas, la consommation du cannabis, vous la considérez comme dangereuse, particulièrement pour les jeunes, c'est ce qu'on dit en tout cas.
Le cannabis, enfin, les produits qui sont prohibés de toute façon amènent à des consommations qui très rapidement peuvent dériver sur des modes assez dangereux. En termes de criminalité, en termes de dangers sociaux, en termes de dangers sanitaires, en termes de dangers répressifs, etc. Un système avec une logique de vente régulée, contrôlée, avec des monopoles d'État, comme ça a été rappelé par exemple, avec un monopole d'État, peut être une solution envisageable et qui permettrait aussi de réinvestir une grande partie de la somme qui aurait dû attribuer aux répressifs à des actions de santé primaire, comme c'est le cas notamment de nombreux pays européens comme au Portugal.
Alors expliquez-nous, Esther Benbassa, comment un cadre moins répressif peut avoir un résultat plus satisfaisant pour limiter la consommation. Ça reste le but quand même.
Tout à fait. D'abord, lorsqu'on nous parle du prosélytisme du cannabis, c'est un des arguments avancés, c'est faux. Il n'y a pas de prosélytisme sur le cannabis, à savoir le type qui fume, il n'appelle pas son copain à fumer, etc., etc. Le deuxième argument très connu, qui est faux aussi, c'est l'escalade. Alors on vous dit, mais oui, si on légalise le cannabis, demain on va prendre du crack, de la cocaïne, de l'héroïne, etc. Alors lorsqu'on regarde de près les pays qui ont légalisé, on voit que les gens ils ne font pas appel à d'autres drogues. Le cannabis, ils le consomment et puis c'est tout. Et, enfin, je ne sais pas, en Hollande, qui est un pays qui n'a pas légalisé, qui tolère le cannabis et qui se fournit sur les marchés criminels, hein, puisque la production, etc., ne sont pas légalisées. Il n'y a pas, au contraire, il y a une baisse des fumeurs de cannabis. Il y en a moins que chez nous et on n'a absolument pas constaté une escalade. Alors, est-ce que le cannabis tue ? Le cannabis tue. Oui, vous pouvez faire un accident de la route parce que vous avez pris du cannabis plus de l'alcool. Il se peut qu'en prenant seulement de l'alcool, vous alliez aussi provoquer cet accident. Bien sûr, il y a des effets, comme vous l'avez rappelé, des effets néfastes sur les mineurs. D'ailleurs, il faut, si le cannabis est légalisé, il faut absolument interdire la vente aux mineurs. Ensuite, c'est vrai que le cannabis, si on est addicté longtemps, ça peut avoir les mêmes effets que le tabagisme, mais le tabac n'est pas interdit. Donc on est dans une sorte de tabou et avec une chape de béton sur cette question, on ne discute pas, donc on ne fait pas de prévention non plus. Tant pis, on ne va pas discuter, mais on va laisser des enfants, par exemple, on sait qu'en troisième, un enfant sur quatre fume du cannabis, consomme du cannabis. Enfin, on ne peut pas fermer les yeux sur ces questions.
Alors, j'aimerais l'avis de l'addictologue sur deux points que vous avez évoqués qui me paraissent intéressants. L'escalade, est-ce qu'on passe forcément du cannabis à des drogues plus dures, entre guillemets, et puis la dangerosité du produit. Nicolas Bonnet.
Alors, sur le premier point, là, sur la question de l'escalade, donc le fait de consommer du cannabis et puis ensuite de passer à une autre drogue, effectivement, ce point-là, il a été depuis très longtemps maintenant battu en brèche, et on sait évidemment qu'il n'y a aucune escalade dans les consommations et qu'on ne passe pas d'un produit à un autre comme ça de façon linéaire, que les parcours de consommation, que le parcours d'usager sont dictés par bien d'autres déterminants qu'uniquement la disponibilité du produit ou sa diffusion. Ensuite, sur les autres dangers du cannabis, le cannabis est un produit comme de nombreuses drogues légales ou illégales qui peut amener à différents types de toxicité. Alors il y a oui une toxicité qu'on va appeler addictogène. Quand on a un usage pluri-quotidien de cannabis, on peut déclencher une dépendance au cannabis. Il y a aussi une toxicité pulmonaire liée au cannabis, ça a été rappelé, comme le tabac. Alors le cannabis serait sans doute d'ailleurs un peu plus dégagerait un peu plus de produits cancérigènes que le tabac, sans doute 5 ou 6 fois plus que le tabac. Ceci étant, les usages sont en général beaucoup moindres que le tabac, donc du coup la mortalité attribuée au cannabis est également relativement mineure. Il y a des dangers sociaux. Les dangers sociaux, ils sont très clairement liés à la prohibition. C'est-à-dire que, comme le cannabis est combattu et réprimé, eh ben, effectivement, on a des dangers sociaux en termes d'accidents de la route, certes, mais aussi, pourquoi pas, de problèmes scolaires, de problèmes professionnels, etc. Mais tout ça, ce sont vraiment des conséquences de la prohibition. Et puis après, il y a un danger qui peut être également celui chez les jeunes consommateurs, donc les mineurs, effectivement, de décrochage scolaire. Là, c'est relativement important, avec ce qu'on appelle un syndrome amotivationnel des enfants, des jeunes qui sont dans une situation d'apathie, qui ne veulent plus rien faire parce qu'ils rentrent dans un usage chronique et excessif de cannabis.
Qu'est-ce qui crée d'ailleurs cette attirance? Qu'est-ce qui fait que le cannabis a autant d'adeptes d'après vous?
Beaucoup de déterminants peuvent amener à une consommation. Il y a d'abord des déterminants qui sont personnels, hein, des facteurs individuels. On aime ou on n'aime pas les produits, on aime ou on n'aime pas les états modifiés de conscience. Il y a ensuite des déterminants qui sont environnementaux, la façon dont le cannabis est disponible ou le produit est disponible, les régulations avec ses pairs, PAIR, ses collègues, etc. Et puis, il y a également le produit en lui-même qui peut également donc amener une certaine attirance là en termes de dépendance et donc favoriser des consommations. Ce qui est certain, c'est que en tout cas on voit bien en France que d'avoir délaissé la prévention au bénéfice de la répression, on a quand même favorisé très largement des comportements de consommation très excessifs.
Stéphane Bassa, vous pensez que ce déséquilibre là est plutôt néfaste entre prévention et...
Ah oui, il est tout à fait néfaste. Enfin, vous avez demandé pourquoi on prend du cannabis.
Alors,
nous sommes le pays qui prend le plus de psychotropes, d'antidépresseurs, etc. Donc, écoutez, il y a le stress, puis il y a aussi... Enfin, il ne faut pas toujours médicaliser le cannabis. On prend aussi... c'est récréatif, ça a des effets qui peuvent apporter... un certain confort psychologique. Et les gens sont à la recherche. Pourquoi ils prennent des psychotropes? C'est la même chose. Donc, on va pas dire que c'est un produit anodin quand même, hein, parce que sur les jeunes cerveaux, comme monsieur l'a dit, ça peut avoir des effets assez graves. On peut avoir même des psychoses. C'est vrai que ça influe sur l'attention, etc. Mais enfin, et pourquoi dans un pays où il y a tant de fumeurs ne pas regarder en face ce problème? Parce qu'en plus, c'est le cannabis, c'est un facteur stigmatisant aussi. Et par exemple, au niveau de la pénalisation, vous avez un jeune qui fume à Neuilly-sur-Seine, a moins de chances de se faire arrêter sans arrêt par rapport à un jeune qui habite, je sais pas, une cité, une banlieue lointaine, qui est habillé avec une capuche, etc. Vous voyez, donc c'est quand même stigmatisant. Et en plus, je veux dire, on ne veut pas, c'est notre conservatisme dans notre pays, on ne veut pas discuter de cette question comme un problème sociétal et un problème de santé publique. Il y a des choses à faire et on ne peut pas continuer à nier la réalité. Nos politiciens, ils ont peur de ne pas se faire élire s'ils ouvrent la bouche au sujet du cannabis, de la légalisation du cannabis, parce qu'ils ont peur d'être traités de laxistes.
Enfin, vous êtes d'accord pour admettre que ça ne va pas régler le problème de santé publique, la légalisation? Ça va l'encadrer.
Pourquoi ça va pas l'encadrer seulement? On pourra faire plus de prévention, plus d'accompagnement, prendre en charge les jeunes gens qui en prennent, les gens addictés, parce que ça sera au vu et au su. Enfin, c'est pas interdit.
S'assurer aussi de la qualité des produits, c'est un problème important, ça, pour vous, Nicolas Bonnet?
Une grosse partie de la dangerosité du cannabis, effectivement, comme toutes les drogues illicites, est liée à son caractère illicite. Donc, effectivement, des produits illicites sont frelatés, peuvent être adultérés par différents types de produits. Et donc, la qualité des produits, quand elle n'est pas contrôlée, peut amener à différents types de complications. Mmh. Ce qui est certain, c'est que ce qui a été rappelé, la répression, enfin, le coût de la répression liée au cannabis est évalué à plus de 500 millions d'euros en France actuellement. Le coût de la prévention et de la prise en charge que pour le cannabis, c'est à peine 30 millions d'euros. C'est 14 fois plus pour la répression. Si on investit un tout petit peu cet argent-là, effectivement, de la prévention, je pense qu'on pourrait avoir, et même j'en suis convaincu, des effets extrêmement positifs en termes de santé publique, de réduction des complications liées à l'usage de cannabis.
Ah, vous avez un allié là, Madame Benbassa.
Ouais, c'est pas une question d'allié, moi j'apprécie beaucoup ce qu'il dit parce que j'apprends plein de choses, mais en même temps je vais vous dire, il y a une petite sensibilisation au sein de la population et il faut que nous politiciens, on arrive à sensibiliser davantage la population et ne pas être coupés de la population et essayer de d'aller de l'avant. La plupart des pays européens, enfin de l'Union européenne, ils ont à divers niveaux ou dépénalisé ou légalisé en partie le cannabis. Et regardez, il y a des rapports qui se font. Le premier, c'était 2011, Vaillant. Ensuite, il y a eu le rapport en novembre d'une députée socialiste et d'un député UMP. On a eu le Colorado qui a légalisé. On a eu le Washington. Après, on a eu Washington DC, à savoir la capitale des États-Unis. On a eu l'Oregon. Il y aura l'Alaska bientôt. L'Amérique latine, l'Uruguay. Enfin, et je sais pas, on dirait que nous sommes un peu coupés du monde. Nous sommes une petite unité repliée sur elle-même qui, au nom du conservatisme, ne veut pas essayer de au moins de penser cette question. Ça passera pas mercredi, mais le but c'est la première fois qu'une loi sur le cannabis est déposée à l'Assemblée et il faut quand même qu'aujourd'hui nos politiciens, l'exécutif ne disent pas seulement ah oui on touche pas, on n'en parle pas comme l'a fait la ministre des Affaires sociales et de la Santé, mais au contraire elle devrait être la première à venir au Sénat et participer au débat et regarder les choses d'un peu plus près. Alors, au lieu de faire de la politique politicienne.
Ça ne passera pas mercredi, vous nous dites. Ça veut dire que cette proposition de loi que vous défendez n'a pas de chance d'avoir l'aval des sénateurs. C'est une mauvaise nouvelle, Nicolas Bonnet?
La mauvaise nouvelle, c'est que le débat, pour l'instant, sur les drogues, n'est pas encore suffisamment placé sur la place publique. J'entends par là qu'il faudrait effectivement qu'il y ait un vrai débat citoyen sur la question des drogues en France.
Dans quel cadre il faudrait le mener, ce débat-là, alors?
Il faudrait le mener au niveau d'instances associatives, d'instances politiques, certes, mais il y a de nombreuses instances dans la vie publique, dans la citoyenneté, où ce débat peut être mené et entendu avec un discours qui soit un discours basé sur les preuves, sur les expériences qui fonctionnent ici ou ailleurs, et pas uniquement sur un débat qui est uniquement à visée électoraliste, parce que si on reste encore une fois sur ces politiques électoralistes, on n'arrivera pas à faire avancer un sujet de société aussi crucial que l'usage des drogues.
J'ajouterais qu'en politique, il faut avoir la patience, monsieur. J'avais déposé plusieurs textes sur différents sujets. Aujourd'hui, ils sont repris, 2 ans et demi après, et sur les discriminations et sur le reste. Je trouve que déjà, en commission, les socialistes n'ont pas voté contre. C'est la première fois. Moi, je croyais qu'ils allaient voter contre. Ils sont abstenus. Les centristes aussi. Et donc, je trouve que là, il y a aussi une sensibilisation. Ne prenez pas ça à la légère, parce que quand on vote contre, c'est contre. Là, on voit que même le rapport de Terra Nova, qui est quand même rattaché au PS, dans une certaine mesure, a sensibilisé les politiciens. Et j'ajouterais qu'on a peur de parler d'argent, mais les revenus du cannabis, au lieu d'être laissés aux délinquants et aux mafias, pourrait revenir à l'État et être investi dans la prévention et créer des emplois et en cette période de crise économique.
Ce serait intéressant. Merci en tout cas. On suivra avec beaucoup d'intérêt, bien sûr, les débats mercredi au Sénat et on en rendra compte. Merci à tous les deux de vos commentaires. Esther Benbassa est sénatrice écologie, Europe Écologie Les Verts, et puis Nicolas Bonnet, pharmacien, addictologue et directeur du réseau des établissements de santé pour la prévention des addictions. Merci également à Florence Ponce et à Valentin Vaner. Demain mardi, politique avec Jean-Christophe Cambadélis, qui est le premier secrétaire du Parti Socialiste. Mercredi, on parlera du service civique. Bonsoir à tous. Un nouveau journal sur Radio France Internationale dans quelques secondes.